Your conference is being recorded.
Bonne conférence à tous. La parole est à Jean-Jacques de Gournay.
Bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord la bienvenue au nom de la DARPA Gestion pour cette conférence call qui va nous permettre de faire un point macroéconomique et un point sur les marchés financiers. J'espère d'abord que tout va bien pour vous et pour vos proches. Je vous rappelle toujours et encore que les équipes commerciales sont toutes présentes en télétravail et surtout équipées pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous informer sur les différentes dates de conférence call ou organiser des rendez-vous téléphoniques avec vous si vous avez des questions. Donc je vais laisser la parole à Mathieu Grouès, donc Éléonore Bunel et Régis Béguet, qui vont essayer de tenir à peu près en 30 minutes pour pouvoir laisser donc la place à vos questions que vous avez précédemment ou actuellement posées par l'intermédiaire de SpeakUp. Merci. Mathieu Grouès, c'est à toi.
Merci Jean-Jacques. Donc je vais pas revenir hein, puisque là on en ça fait plusieurs semaines qu'on organise ces calls, donc je vais pas revenir sur le point global sur la situation. Je vais plutôt me livrer à une actualisation et au cours de laquelle je reviendrai sur les éléments les plus importants de notre analyse. Donc si on commence par la partie épidémie, donc sur la dernière semaine, on a eu une confirmation hein, qu'on avait une décrue en Italie et aussi en Espagne. Donc ça, c'est vraiment les éléments qu'on disait être les plus importants à suivre. Hein. C'était que de valider l'idée qu'on avait eue après la Chine et après la Corée du Sud, que on pouvait arriver à faire baisser le nombre de cas après 2 à 3 semaines de mesures et voilà, ça semble bien être le cas. Le fait que le nombre de décès commence lui-même à baisser montre que en fait le nombre de cas a sans doute commencé à baisser il y a 2 ou 3 semaines et que ça se voit pas dans le nombre de cas tout de suite parce qu'on a augmenté pendant cette période-là le nombre de tests. Mais voilà, c'est quand même des éléments qui sont vraiment positifs qu'on attendait. Peut-être encore plus positifs quelque part symboliquement, on a eu les premières annonces de mesures de déconfinement par quelques pays en Europe. Je dis que c'est peut-être le plus positif parce que je le rappelle, hein, donc là on a une vision dans cette conférence call qui est très concentrée économie marché financier, hein, c'est pas une vision sanitaire. Et d'un point de vue économie marché financier, il faut bien garder à l'esprit que le virus n'a aucun impact sur l'économie et n'a aucun impact sans doute sur les marchés financiers. Ce qui a un impact, c'est les mesures qu'on prend pour lutter contre le virus, c'est les mesures de confinement. Et donc, c'est pour ça que pour nous, l'essentiel, à la limite, c'est vraiment de voir ce qui se passe d'un point de vue confinement. Et le fait que certains pays commencent à élaborer des stratégies, même à avoir un calendrier à court terme de sortie progressive du déconfinement, c'est quand même une très bonne nouvelle selon nous. Et donc, on a 4 pays hein, qui ont annoncé des mesures récemment. Il y a l'Autriche, la Norvège, le Danemark, la République tchèque. Donc c'est des mesures très progressives, hein, c'est clair, mais c'est quand même quelque chose d'assez important de voir qu'on a cette volonté politique de passer à l'étape suivante, ce qui est vraiment la clé pour l'économie et donc derrière pour les marchés financiers. Sur les États-Unis, c'est là où on a la situation qui est la plus compliquée en ce moment. Il n'en demeure pas moins que depuis 3-4 jours, on voit peut-être un début de stabilisation. Donc, je suis prudent, hein, on a eu des déceptions sur des pays européens. 3-4 jours ne prouvent rien. Mais c'est vrai qu'on a 3-4 jours où on oscille autour de 30 000 nouveaux cas par jour. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. Mais c'est bien sûr, pour l'économie mondiale et pour les marchés financiers, c'est clair que ce qui se passe aux États-Unis jouera un rôle clé. Et donc, c'est important de vérifier qu'ils arrivent à suivre la même trajectoire que la Corée du Sud dans un premier temps et que les pays européens semblent suivre dans un second temps. Sur la partie traitement, test, etc., sur les tests sérologiques, donc on a un nombre de tests hein, qui ont été homologués. Il y a bien sûr la mise en production massive qui reste une question qu'il va falloir suivre. On a en tout cas aux États-Unis plusieurs études qui ont été lancées. J'en ai vu qu'aux États-Unis de façon assez surprenante, mais des études qui ont été lancées avec comme objectif non pas de répondre à la question individuelle pour une personne, est-ce que vous avez eu le coronavirus, qui est une question importante pour elle, mais assez secondaire honnêtement d'un point de vue collectif, mais pour répondre à la question qui est la vraie, qui est quel est le niveau en fait de contamination de cette épidémie dans des populations générales. La réponse à cette question, apportant la réponse à la question suivante qui est clé, c'est quel est le véritable taux de létalité. Si on découvre tout d'un coup que finalement, je ne sais pas, en Espagne, on a 10% de la population qui a déjà été contaminée, ça amènera à revoir drastiquement à la baisse le taux de létalité, et ça changera sans doute totalement la politique de confinement qui est mise en place. Et de façon surprenante, j'ai pas vu d'études, alors j'ai pu les rater, mais j'ai pas vu d'études généralisées en Europe, dans aucun pays. Alors qu'aux États-Unis, on a plusieurs études qui ont été lancées avec des débuts de réponse dans une à deux semaines. Ce serait plus intéressant en Europe puisque l'épidémie a plus d'avance, donc c'est vrai que ça nous donnerait une photo un peu plus actualisée, mais ça sera déjà très intéressant d'avoir ces résultats-là. Sur le traitement, pour l'instant, on n'a pas de résultats. On avait évoqué le fait, ça avait été annoncé qu'on aurait des premiers résultats en fin de semaine dernière de l'étude Discovery en Europe. Ça nous paraissait très très tôt. On n'avait pas forcément tort d'être étonné que ça arrive si vite, puisque finalement, a priori, il n'y a aucune statistique qui est aucun résultat intermédiaire qui n'a été publié. Donc on va continuer d'attendre sur ces résultats-là ou d'autres résultats qui pourraient venir sur la fin avril, qui ont été menés en Asie. Voilà, donc ça c'est sur l'épidémie. Sur l'économie, on a eu au cours de la semaine de nouvelles mesures qui ont été implémentées. Moins fréquente qu'au tout début, c'est une évidence, mais on a quand même des mesures qui sont implémentées régulièrement. Donc en Chine, on a eu des annonces qui touchent à la fois des subventions pour l'automobile, des baisses de taxes, des mesures de soutien aux petites entreprises. Sur le Japon, finalement, il ressort que le plan annoncé est à peu près deux fois plus gros que ce qui avait été compris au départ. Donc on est plutôt autour de 1 000 milliards de dollars. Donc à l'échelle du Japon, c'est quelque chose de quand même très très important, avec aussi un système d'envoi de chèques, un peu comme aux États-Unis, mais là qui sont ciblés sur les ménages les plus fragiles, les plus en difficulté. Voilà, donc c'est quand même des mesures très importantes. Et en Italie, on a eu aussi des nouvelles annonces de mesures de relance pour environ 40 milliards d'euros. Par contre, côté européen, on n'arrive toujours pas à offrir un cadre clair de mesures de relance. On a eu des discussions toute la nuit, a priori, des ministres des Finances qui n'ont abouti sur rien. On a toujours ce blocage de savoir est-ce qu'il faut que ces mesures s'appuient sur des émissions conjointes d'obligations. On a l'Allemagne qui refuse avec des pays proches. Voilà, ça reste un élément de blocage. On espère qu'on aura une solution. Sachant qu'on aura de toute façon, si c'est pas d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel, on aura des mesures de soutien et des mesures de relance qui vont être annoncées progressivement en Europe, où on a beaucoup garanti des prêts, on a beaucoup mis en place le chômage partiel, mais contrairement aux États-Unis ou au Japon que je viens d'évoquer ou à pas mal d'autres pays, on n'a pas annoncé à proprement parler des mesures de relance, ou en tout cas pas massives, si on regarde en masse, et c'est sans doute quelque chose qui va venir. D'un point de vue publication de chiffres économiques, on a eu, je vais dire presque malheureusement, parce que ça donne des regrets, la confirmation que le scénario qu'on avait en début d'année hors crise sanitaire était bien le bon scénario. On a bien des chiffres qui continuent de nous dire que l'économie était en train d'accélérer, était en train de très bien se comporter. Donc on avait déjà eu le rapport sur l'emploi américain de tout début d'année qui avait été très bon. Récemment, on a eu les commandes à l'industrie en Allemagne qui ont progressé fortement sur janvier et février, donc marquant bien le redémarrage de l'industrie qu'on attendait. Dans la zone euro globale, on a eu le taux de chômage qui a retouché son point bas de 2007 à 7,3%. Donc on était sur le chômage en février en Europe qui était le plus bas des 30 dernières années. Donc c'est quelque chose qu'on avait plus ou moins annoncé il y a un an qui paraissait être assez difficile à atteindre et qu'on a finalement atteint, mais bon, malheureusement, probablement juste avant de voir une nouvelle hausse suite à l'épidémie. Mais voilà, on avait quand même cette dynamique de tout début d'année qui est pas totalement neutre par rapport à la capacité de l'économie à absorber le choc qu'on est en train d'avoir. Sur le choc, on n'a pas beaucoup d'informations nouvelles, honnêtement. En tout cas, les chiffres qui sont publiés régulièrement ne nous informe pas beaucoup plus que ce qu'on sait déjà, c'est qu'on est sur un choc d'une violence absolument incroyable, qu'on n'a jamais vue. Donc on a certes des PMI qui baissent très très fortement, mais je vous avoue que ça nous permet pas d'affiner cette analyse simple, c'est que c'est un choc incroyablement violent. On a des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis aussi qui montent très rapidement. Après les 3,3 millions, on a fait plus 6,6 millions. Là aussi, c'est difficile de quantifier, de se dire est-ce que finalement c'est décevant, est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir. Je vous avoue que c'est assez difficile à dire. C'est juste une confirmation que c'est un choc d'une violence assez incroyable, même si la nature du choc, on l'a déjà dit hein, et on le redit, est de nature totalement différente. C'est pas des capacités de production qui sont détruites définitivement comme lors d'une récession habituelle. C'est des capacités de production qui sont mises en sommeil et qui vont repartir en sortie de crise. Alors est-ce qu'on repartira à 100% ou est-ce qu'on aura un taux de déchets, si je peux dire, de 1, 2, 3, 4, 5, 6%, c'est difficile d'être catégorique aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vraiment... On ne peut pas comparer les chiffres qu'on a avec ce qu'on a avec des récessions classiques. On a pour la France la Banque de France qui a donné sa propre estimation de la perte d'activité aujourd'hui. On a des chiffres très similaires à l'INSEE. C'est 32% pour la Banque de France, c'était 35% pour l'INSEE. C'est quelque chose d'assez rassurant quand même pour nous, parce que le chiffre de l'INSEE datait quand même d'il y a maintenant à peu près 15 jours. Et on pouvait se demander si finalement on serait pas en train d'être plutôt à 40 ou 45% aujourd'hui. Donc la Banque de France, sur une estimation beaucoup plus récente, reste dans le même ordre de grandeur, à 32%. Demain, on aura une nouvelle estimation de l'INSEE. Mais voilà, ça montre bien la violence du choc qui est vraiment exceptionnelle. De façon intéressante, on a une idée de l'utilisation des mesures qui ont été mises en place de soutien à l'économie. En tout cas, le chômage partiel, qui pour nous est un élément vraiment clé, est utilisé de façon extrêmement massive, à la fois en France et en Allemagne. L'estimation aujourd'hui, c'est que c'est environ 25% des employés qui sont au chômage partiel. Donc, ce qui fait 6 millions en France et 9 millions en Allemagne, donc on est sur des chiffres très très importants. Pour nous, c'est clairement une bonne nouvelle. Hein. Il faut que toutes les mesures qui ont été mises en place, faut qu'elles soient utilisées et faut qu'elles puissent être utilisées. C'est-à-dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart possible. Et on trouve ça très rassurant de voir qu'en très très peu de temps, autant d'entreprises, autant de personnes aient pu en fait passer au chômage partiel. Ça montre qu'il n'y a pas eu des dysfonctionnements trop importants qui aurait pu provoquer un retard important. Et donc ça, c'est quand même aussi plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc d'un point de vue macro, la clé, hein, ça reste de toute façon pour nous la durée du confinement. C'est vraiment l'élément déterminant. Et de ce point de vue-là, donc on revient à la case départ qui est la case de l'épidémie. Hein, donc on va suivre l'épidémie massive de façon très précise et surtout les mesures de déconfinement qui vont être annoncées, leur implémentation, leur généralisation, et je crois que c'est vraiment la partie la plus importante. Si on arrive à rester sur une durée de mise en sommeil assez courte de l'économie, pas plus, on va dire, de mois, ça devrait être assez bien gérable derrière. Si on devait être sur des durées bien plus longues de 5-6 mois, bien sûr, ce serait beaucoup plus compliqué. Sur les marchés financiers, on a des marchés qui se sont quand même bien stabilisés. C'est vrai sur les marchés actions, c'est vrai sur le marché du crédit, hein, où on a eu des reculs sur les spreads qui sont quand même assez significatifs. On a toujours un marché primaire obligataire qui fonctionne, donc ça c'est quand même un des éléments très très importants. Ça fait une différence significative par rapport à 2008-2009. Donc voilà, sur les marchés, on n'a pas beaucoup d'autres éléments à vous donner. On pourrait vous parler des PE, mais c'est vrai que de toute façon, les résultats sont revus en baisse quotidiennement. Les analystes ne sont pas du tout à jour pour 2020 de l'impact de la crise. Et pour ce qui est de 2021, je pense que de toute façon, la visibilité des analystes est à peu près nulle aujourd'hui, puisque ça va dépendre fortement si on a raison sur le scénario que le déconfinement a lieu relativement rapidement. Bah, sans doute que les résultats de 2021 ne seront pas du tout si mauvais que ça. Par contre, si effectivement on était sur un confinement beaucoup plus long, l'impact serait beaucoup plus fort et donc c'est difficile de prêter beaucoup d'attention à ces estimations 2021 qui restent à mon avis extraordinairement fragiles. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je passe la parole à Éléonore sur la partie obligataire.
Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, Mathieu, sur le marché des crédits, on a eu un marché qui se comporte plutôt bien depuis à peu près le 20-21 mars, donc post-annonce BCE, etc., et mesures de soutien de la part de tous les gouvernements. Donc, on a vraiment un marché du crédit qui est revenu. Il faut voir, quand on regarde, par exemple, le marché du high yield, le pic du 20 mars, en termes de spread, était aux alentours de 910 BP, 913 BP exactement. Aujourd'hui, on est revenu à 739 BP. Donc, on a 180 BP depuis le 20 mars, ce qui correspond à peu près à une performance de 6,8%, ce qui est, je vous avoue, fort. Le rendement aujourd'hui du high yield est autour de 7%. Et quand on a un rendement de 7% sur le high yield, c'est à peu près des taux de défaut à 8%. Et c'est ce que prévoient les agences de notation, en particulier S&P, pour la fin de l'année 2020. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le rallye qu'on a eu là, en mars, aujourd'hui, les niveaux qu'on a atteints sont plutôt fair value. Voilà, si on estime que S&P a raison sur les taux de défaut à 8% d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est pour le high yield. C'est vrai que corporate, en général, on a des downgrades hein, quand même tous les jours. Les agences de notation revoient tous les jours toutes les sociétés et on a des downgrades tous les jours. Secteur automobile, tourisme et transport, etc. Donc on a vraiment une pression à la baisse sur les ratings et qui va continuer, hein, qui sera en ligne justement avec ces dits dégradés à la fin de la crise. Évidemment, même si les boîtes aujourd'hui utilisent tous les moyens, les sociétés utilisent tous les moyens possibles pour préserver le cash, hein, notamment les mesures par le gouvernement avec le chômage partiel, le décalage des charges et des impôts, etc. Mais bon, là, ça c'est qu'on va quand même avoir des bilans dégradés à la fin de la crise. Donc aujourd'hui, plutôt fair value sur le high yield, sur les finances, aussi un fort resserrement de spread depuis le 20 mars, on a à peu près entre 30 et 40 BP pour les additional cash. Alors 30 et 40 BP, c'est depuis fin mars. Mais on est dans le même ordre de grandeur, on est à peu près à 180 BP de resserrement sur les ATM depuis le 20 mars. Donc voilà, on voit bien que le high yield, les additional tier 2 high yield ont très très bien performé depuis presque 3 semaines. Voilà, l'investissement également. Alors, ce qu'on peut noter sur l'investissement grade, et Mathieu le disait tout à l'heure, c'est depuis justement le 20 mars, on a quand même un retour du marché privé assez impressionnant. On a des noms hein, qui sont venus sur le marché, Bouygues, Veolia, Uniba et Capgemini aujourd'hui. Et souvent, les books sont sur parfois jusqu'à même 10 fois. Donc, on a une réelle demande sur l'investissement grade, certainement soutenue par la Banque centrale aussi, hein. Mais voilà, donc on a des noms qui arrivent sur le marché avec des primes de risque très très intéressantes autour de 200 BP, 200 BP selon les noms, pour du 5, 7 ans, 10 ans de maturité. Donc c'est quand même assez fort. Hein. Je vous rappelle que avant le rendement moyen de l'investment grade était à 0,5. Et on est plutôt aujourd'hui légèrement en dessous des 2%. Donc on a eu quand même un comportement de spread qui aujourd'hui offre des opportunités pour ceux qui veulent se repositionner sur l'investment grade également. On a eu la semaine dernière aussi l'ouverture sur le marché à yield, sur le marché primaire, donc un nouveau nom qui est déjà évidemment Ardagh, qui est une boîte de packaging, qui est revenue sur le marché primaire, donc ça, sur le marché à yield américain, donc bonne nouvelle également. Voilà concernant le marché primaire. Sur les flux, alors on vous avait expliqué qu'au mois de mars, hein, tous les cartes qu'on avait eues, c'est évidemment lié à ces flux sortants massifs qu'on avait eus sur le crédit. Donc sur l'Europe, sur les fonds crédit, on avait eu environ 10 milliards, si on se passe depuis le début de l'année, de sorties, avec évidemment 15 sorties sur mars, hein, c'était énorme, mais 10 milliards si on se positionne depuis le début de l'année, donc en sortie sur l'investment grade, 8 milliards sur le, c'est assez fort, et donc ce qu'on a vu depuis maintenant, je dirais 2 semaines, c'est des flux qui se stabilisent sur le high yield, donc on n'a pas encore dit de flux entrant, mais on a une stabilisation des flux, Et côté investment grade, on a des inflows, donc des flux entrants. Donc on a eu, juste pour vous un ordre d'idée, on a eu 1 milliard la semaine dernière de rentrée sur les fonds. Donc bon, on est loin des 10 milliards à rattraper, mais au moins ça donne un petit signe positif pour la classe d'actifs crédit. Donc on voit bien que les envie de revenir en fait. Hein. Il faut dire que beaucoup d'investisseurs avaient beaucoup de cash dans les portefeuilles, donc ils essayent de se repositionner sur des noms sur lesquels ils sont quand même confortables, donc des noms investment grade, Bouygues, Veolia, Capgemini aujourd'hui, sur lesquels on a des primes de risque intéressantes sur ce marché primaire. Voilà, côté fondamental, donc je vous l'ai dit, grade sur le crédit corporate. Côté banque, on a eu une annonce de suppression des dividendes de la part des banques et des assureurs. Voilà, un peu plus technique aussi, mais toujours pour faire en sorte que la liquidité reste abondante, on a la Banque Centrale Européenne qui a abaissé temporairement la qualité du collatéral éligible à ces opérations de refinancement. Et puis, on a eu également la Suède qui a annoncé dès 2 ans, donc la mise en place du MREL, donc je m'excuse, c'est un peu technique, mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il n'y aura pas de pression pour les banques suédoises pour venir émettre à court terme, d'ici 2024, des noms de préférés seniors. Voilà, donc ça, c'est le côté mental. Le côté flux, je vous l'ai expliqué, marché primaire et flux entrant maintenant sur l'investment grade. Les rendements, je peux conclure par ça, les rendements, aujourd'hui, donc on a plutôt 7% sur le high yield, 8% sur les AT1, sur tout ce qui est tier 2, donc subordonné, moins risqué hein, que l'additional tier 1, on est autour de 2,7 sur l'investment grade. Pareil pour les hybrides corporates, donc tout ce qui est dette corporate, on est autour de 2,7. Et l'indice global investment grade, on est autour de 1,8. Donc, rendements qui sont faibles, hein, parce qu'on a des taux. Le taux allemand qui reste négatif, donc ça tire vers le bas les rendements, mais les frais de crédit sont quand même sur l'investment grade, sont quand même très intéressants aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole à Régis, qui va vous faire un point donc, sur les actions.
Merci, bonjour. Sur les actions, on a vu récemment donc la volatilité, l'agitation extrême diminuer un petit peu dans une forme de regain d'optimisme du marché qui se cale effectivement sur les variations du nombre de nouveaux cas d'atteints par le Covid et comme on voit effectivement un plateau se dessiner en Europe, il y a eu une forme d'anticipation du marché de la sortie de crise avec évidemment un doute fort sur le type d'action qu'il fallait avoir, puisque les secteurs qui ont le plus souffert pourraient être en partie, il y a des secteurs qui ne vont pas se relever, mais il y a une très grande partie des secteurs ou des entreprises qui ont le plus souffert, qui seraient celles aussi qui redémarreraient le plus fort, le plus vite, et à l'inverse, ceux qui ont profité ou qui ont résisté ou qui ont profité de la situation actuelle pourraient être ceux qui pâtissent de la sortie de crise. Je pense en particulier à certaines activités dans la distribution, certaines activités liées à la pharmacie, aux hôpitaux, ou médicales, paramédicales. On a eu par exemple hier une société qui fabrique des outils diagnostiques, des équipements d'aide respiratoire, des endoscopes à usage unique, qui a relevé très fortement sa guidance sur l'ensemble de l'année de manière assez naturelle compte tenu du surcroît d'activité qu'il y a actuellement. Et il est évident que dans la perspective de la sortie de crise, ce ne sont pas ces entreprises-là qui vont bénéficier de la sortie de crise, à l'inverse. Et par conséquent, le marché est dans cette agitation. Il y a eu aussi une très forte perturbation qui a été induite par les politiques de dividendes. Donc, c'était en début de semaine dernière quand il y a eu les premières indications que les banques devraient ne pas verser de dividendes. Les entreprises en France qui bénéficient d'une aide directe ou indirecte de l'État, c'est-à-dire qui font appel aux mesures de chômage partiel. Et effectivement, ça a créé une forte distorsion de valorisation dans le marché parce que les flux se sont dirigés vers les entreprises qui pourraient continuer à payer leurs dividendes de manière à créer des distorsions de valorisation qui était totalement disproportionnée par rapport à la réalité économique que constitue le versement ou non d'un dividende. Et puis, ça, c'était jusqu'au milieu de la semaine dernière à peu près. Et puis, ça s'est normalisé très nettement en fin de semaine et également en début de cette semaine où les secteurs qui avaient été les plus pénalisés par ce phénomène, notamment le secteur bancaire, mais pas seulement, ont eu tendance à remonter, tandis que ceux qui en avaient le plus bénéficié, en particulier le pétrole ou même la pharmacie, ont eu tendance à rebaisser, donc avec une normalisation de ces écarts qui étaient sans doute excessifs. Donc le marché est dans une forme d'attente en réalité, puisque nous sommes dans une période où il n'y a pas encore de publication véritablement de résultats. On démarre à peine, je citais cette entreprise hier, il y a quelques autres qui commencent à donner des indications sur le premier trimestre, où on commence à effectivement pouvoir avoir une appréciation de l'impact de la dernière quinzaine de mars, et par conséquent commencer à faire des petites projections sur l'ensemble de l'année en se basant sur cette dernière quinzaine de mars, mais ça reste encore très très parcellaire, l'information reste extrêmement parcellaire. Les entreprises communiquent beaucoup avec les investisseurs et avec les analystes financiers, sont dans une recherche de communication, mais sont pour l'immense majorité d'entre elles, évidemment, dans l'incapacité de donner des perspectives de résultats, puisqu'il y a une énorme incertitude à la fois sur la durée du confinement et puis sur la nature de la sortie du confinement, qui est aussi un élément qui est important à prendre en compte, parce qu'il y a un certain nombre d'industries qui pourront reprendre si le confinement est libéralisé, mais il y a aussi un certain nombre d'activités de services, de restauration, de tourisme, etc., de transport, qui ne reprendront pas sans doute aussi rapidement, peut-être à moitié, peut-être au tiers, et donc il est vraiment assez difficile de bâtir des scénarios individuels, entreprise par entreprise. Par conséquent, on reste dans une communication qui est essentiellement basée sur la consommation de cash dans la période actuelle et le nombre de semaines pour lesquelles les entreprises résisteront et ne seront pas en difficulté de liquidité. Pour l'instant, ce qu'on voit, il n'y a pratiquement aucune difficulté de liquidité dans le marché pour les entreprises qui ne sont pas très complètement arrêtées. Donc la liquidité, on la voit compliquée dans le secteur des compagnies aériennes très principalement, mais il n'y a pas de difficulté non plus d'accès parce que il y a des interventions des gouvernements. On sait que dans l'automobile, si je consolide à peu près l'ensemble des constructeurs automobiles en Europe, les grandes, on estime qu'il y a 15 à 20 milliards de consommation de cash par mois, ce qui n'est quand même pas rien, mais on part d'une situation où il y avait du cash qui était accumulé chez tous les grands constructeurs automobiles, qui était très important, et par conséquent, il n'y a pas non plus de difficulté de liquidité, il y a une très bonne coopération avec le secteur bancaire qui lui-même se refinance très bien auprès de la BCE qui a elle-même étendu son TLTRO à de nouveaux types de crédits, notamment les PME et même les crédits qui sont faits aux auto-entrepreneurs seront désormais éligibles au TLTRO. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui contribue à la facilité de liquidité. Il y a d'autres entreprises également qui appellent à faciliter le cash et le Crédit Suisse, pour ne pas la nommer, a appelé ses clients à proposer à ses clients d'être rémunérés sur le cash s'il était déposé plus d'un an au sein de la banque, ce qui leur permettrait à leur tour évidemment de faire des facilités de crédit. Donc de ce point de vue-là, on n'a toujours pas de difficulté, mais aucune capacité à faire des prévisions de résultats sur l'année 2020. Et donc évidemment, ça limite la capacité de prévision de la valorisation du marché dans son ensemble. Je reviens juste un dernier point sur les dividendes pour dire aussi qu'il y a un problème qui a été soulevé par le CEO d'AXA aujourd'hui dans le Financial Times, qui est l'écart de réglementation et d'attitude d'un pays à l'autre. Ainsi, en fonction de la place de cotation de l'entreprise ou en fonction du régulateur à laquelle elle se réfère, eh bien, on va avoir des politiques de dividendes qui sont différentes, y compris même au sein, évidemment, de l'Union européenne, ce qui pose un problème aussi, à nouveau, d'unité du discours de l'Union européenne et d'unité de la politique de l'Union européenne. Aux États-Unis, les rachats, c'est plus les rachats d'actions qui sont visés quand les entreprises font appel à l'État. C'est un peu moins spectaculaire de supprimer ou de reporter un rachat d'action que de reporter un dividende, même si, encore une fois, sur le fond de l'analyse financière, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et on va rentrer maintenant, à partir plutôt de la semaine prochaine, plutôt de la deuxième partie d'avril, bien dans des publications de résultats sonnantes et trébuchantes. Et par conséquent, on va pouvoir avancer un petit peu plus en matière de prévision de rentabilité. Encore une fois, là, on en est à la gestion du cash beaucoup plus qu'à la gestion du résultat. Voilà pour ma part.
Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu?
Une question, moi, sur les fonds monétaires. Donc, je vais répondre. Oui. Donc, en fait, sur quid des interventions et des sorties des interventions de la BCE et des sorties des fonds monétaires. Concernant les sorties des fonds monétaires, durant les trois semaines de fin mars, elles ont été estimées à peu près entre 10% et 25% des encours. Donc, ce qui est assez, quand même assez important. Les sorties, ont été constatées vraiment dans un cadre organisé par l'AMF, hein, entre les banquiers et les investisseurs. Donc, pour permettre les rachats en bon ordre, l'AMF a défini des règles de rachat des CD par les banques. Et côté intervention CE, alors elles ont réellement débuté en fait fin mars, vers le 30 mars. Et d'après les chiffres de la Banque de France qu'on a ce soir, les achats sur le marché français, donc qui est de loin le plus gros marché monétaire, sont à peu près entre 1 et 2 milliards par jour de NECP corporate. Donc les NECP, c'est les anciens billets de trésorerie, hein, ça a changé de nom. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire là pour le moment sur le marché monétaire et des interventions de la Banque Centrale Européenne.
D'autres questions au speak-up? Non, écoutez, en tout cas, merci pour votre présence, nombreuse. Et je vous rappelle qu'il y a une note quotidienne que Lazard Fin Gestion, toutes les équipes de Lazard Fin Gestion conçoit, qui est sur le blog de Lazard Fin Gestion et que certains d'entre vous, s'ils le souhaitent, peuvent recevoir quotidiennement aussi par mail. Voilà, ben merci à tous en tout cas et passez une bonne journée. À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.